À Pâques, nous apprenons à entrer dans la vie. C'est une naissance et c'est aussi tout un apprentissage à faire. En effet, la vie n'est pas si simple que ça, parce que nous sommes une personne riche de multiples dimensions. Comment les harmoniser ? Alors, je vous propose de réfléchir sur ce point en suivant des récits du premier livre de Samuel qui nous disent comment Dieu choisit qui pourrait avantageusement régner sur son peuple. Manifestement, ce n'est pas une question facile, même pour Dieu, qui doit tâtonner pour arriver à y parvenir à peu près. Alors d'abord, ça va être l'onction de Saül. C'est dans le premier livre de Samuel, au chapitre 9, fin du chapitre 9, début du chapitre 10. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant « Demain, à cette heure-ci, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu lui donneras l'onction pour qu'il soit le conducteur de mon peuple Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai pris garde à mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Samuel aperçut Saül et l'Éternel lui dit « Voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui détiendra le pouvoir sur mon peuple. » Saül s'approcha de Samuel à la porte de la ville et il lui dit « Indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant ?» Samuel répondit à Saül « C'est moi, le voyant. » Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il l'embrassa et lui dit « L'Éternel t'a donné l'onction pour que tu sois le conducteur de son héritage. » Alors au début, ça ne se passe pas si mal avec Saül, et puis finalement, ça se passe moins bien. Et on nous raconte la suite au chapitre, la fin du chapitre 15 et puis le chapitre 16. L'Éternel avait eu du regret d'avoir fait régner Saül sur Israël. L'Éternel dit à Samuel, « Remplis ta corne d'huile et va. Je t'envoie chez Isaïe de Bethléem, car j'ai vu un roi pour moi parmi ses fils. » Alors je vous passe quelques péripéties. Et lorsqu'ils arrivèrent, ils dirent en voyant... Samuel se dit en voyant Éliab, « Certainement, le Messie de l'Éternel est ici, devant lui. » Mais l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends pas garde à son apparence et à sa haute taille. Je l'ai rejeté comme roi. Il ne s'agit pas de l'homme, il ne s'agit pas de ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel, lui, regarde au cœur. » Ensuite, Isaïe appela un autre fils, Abinadab, et le fit passer devant Samuel. Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fait alors passer Shamma, et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer ainsi ses sept fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Samuel dit alors à Isaïe, « N'y a-t-il pas encore d'autres jeunes gens ?» Et Isaïe répondit, « Si, il reste encore le petit, mais il fait paître le troupeau. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher, car nous ne nous installerons pas avant qu'il ne vienne ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or, il était roux, avec de beaux yeux et une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, donne-lui l'onction, car c'est lui. » Samuel prit sa corne d'huile et la loignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel s'empara de David à partir de ce jour et après. Ô Éternel, par l'étude de nos Écritures anciennes, Ouvre-nous maintenant à ton souffle de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors tout au long de ce récit, l'Éternel passe par le prophète Samuel comme un interface entre lui et le peuple. Samuel incarne donc notre capacité à être en relation avec Dieu. En effet, le nom même de Samuel exprime le fait que Dieu entend et qu'il répond. L'Éternel a entendu le chaos dans lequel se trouve son peuple, dans lequel nous nous trouvons, et Dieu cherche alors une personne qui puisse coordonner le peuple et le rendre plus fort contre tout ce qui le fait souffrir, tout ce qui le menace. Nous pourrions faire une lecture politique de ce texte, mais je vous propose plutôt de nous l'approprier plus intimement avec ce Dieu qui nous aide à nous mettre en forme, à nous mettre en route, en marche. En effet, à la suite de Jésus, l'ennemi le plus à craindre n'est pas tant extérieur qu'intérieur à nous-mêmes. Il est tout ce qui est souffrant en nous, ce qui est facteur de division, alors on peut dire diabolique si on veut, puisque c'est ça que ça veut dire, tout ce qui menace notre âme, tout ce qui menace notre élan vital, notre sentiment d'être digne d'être, d'exister, d'agir. Samuel représente ainsi notre talent spirituel. Nous en avons bien plus que nous ne le pensons en réalité. Notre Samuel, il est ce qui en nous appelle au secours notre Dieu et reçoit sa réponse. Une réponse qui est peut-être de la parole, mais plus réellement, je pense, quelque chose qui nous permet de voir clair dans notre existence. En effet, Samuel est appelé ici le voyant. C'est les yeux de notre foi, c'est les oreilles de notre intelligence éclairées par Dieu. Samuel, c'est notre vigilance qui est éveillée par notre sensibilité, éclairée. Notre Samuel doit apprendre à découvrir les différentes personnes du peuple afin de discerner quel est le mieux pour gouverner l'ensemble de notre être, l'harmoniser. Notre Samuel, c'est notre foi active, c'est nos temps de réflexion qui nous permettent de mieux nous connaître nous-mêmes, c'est notre foi qui appelle à Dieu, c'est notre espérance que Dieu nous donne d'y voir plus clair en nous-mêmes. Alors Dieu va d'abord aider Samuel à reconnaître Saül comme pouvant être roi. Pour cela, Dieu envoie Samuel lui donner l'onction. Alors l'onction, ça évoque à la fois une responsabilité qui nous est donnée et ça exprime aussi la bénédiction, la force que Dieu nous donne, celle qui va avec la responsabilité, qui nous donne la capacité de l'accomplir. Alors qu'est-ce que c'est que ce Saül? Le nom même de Saül signifie en hébreu ce que l'on désire, ce que l'on demande, ce que l'on demande. Alors là, ça fait référence à ce qui précède. C'est le peuple hébreu disait à l'Éternel, on veut avoir un roi comme les autres nations. Bon, Dieu déconseille, il dit, je préférerais que ce soit un simple gouverneur, parce que les rois ont trop de pouvoir et que le pouvoir pervertit assez rapidement l'humain, la personne. Alors les Hébreux insistent, on veut un roi, on veut un roi. Alors Dieu va répondre à leur désir en choisissant au mieux, et il choisit Saül. Alors déjà, cette histoire, à mon avis, propose une théologie tout à fait révolutionnaire. On s'imagine parfois Dieu comme étant le roi des rois, et il faudrait obéir à ce roi des rois. Et voilà que Dieu se fait serviteur de l'humain. Il entend son désir, et Dieu choisit de l'accompagner, le désir de l'humain, pour que ça aille vers le meilleur. C'est vraiment ce que manifeste Jésus tout au long de sa vie. Jésus explique, le plus grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Alors comme toujours, Dieu est le premier à être et à faire ce qu'il nous propose de faire. Dieu, le plus grand donc, est notre serviteur, nous dit ce récit du livre de Samuel. Samuel suit les conseils de Dieu et il va donner l'onction à Saül pour que Saül accompagne, serve, aide à ce que le peuple puisse être bien ensemble et puisse être fort face à ses ennemis. Mais voilà donc que Saül prend la grosse tête, une grosse tête couronnée d'or, et de désirer par Dieu et par les hommes, il va prendre son propre désir à la place de Dieu, se mettant à faire n'importe quoi et devenant particulièrement souffrant. Alors, c'est spirituellement, effectivement, assez fin de voir ce qui va suivre dans cette histoire. Dieu fait tout pour nous rendre service, pour nous accompagner où nous avons choisi d'aller. Cette aide de Dieu est effectivement géniale à vivre très concrètement. Seulement, ce texte nous met en garde, effectivement, contre une difficulté, de ne pas prendre Dieu pour autant comme étant notre majordome, notre serviteur, devant obéir à nos ordres. Et donc, ça peut arriver souvent, effectivement, que dans notre prière, nous nous mettions à donner des ordres à Dieu en lui disant « fais ceci, fais cela ». Alors notre désir est bon, effectivement. Notre désir est entendu par Dieu. Il est béni par Dieu, comme nous le voyons dans cette histoire. Mais notre désir ne doit surtout pas régner sur nous et prendre la place de Dieu dans notre adoration. Le récit nous montre alors que Dieu se repent d'avoir choisi Saül. Et là encore, c'est une théologie révolutionnaire, un Dieu capable de reconnaître que les choses n'ont pas tourné comme il pensait qu'il devrait arriver. Seulement, ça n'arrête pas Dieu d'agir, bien entendu, de réagir, de changer. Et mille fois, Dieu serait prêt à continuer à espérer encore, à essayer encore et encore de nous donner la vie, de trouver la solution. Et donc Samuel va reprendre la route sur les conseils, sous l'impulsion de Dieu. L'histoire s'allonge encore un peu avec quelques péripéties, car effectivement, même pour Dieu, c'est pas très simple d'arriver à discerner comment conduire l'humain. Une théologie simpliste raconterait un Dieu qui enverrait son prophète droit au but, renversant tous les obstacles avec puissance et élevant la bonne personne. On voit au contraire un Dieu qui guide pas à pas Samuel, son prophète, devant ruser, déjouer les faiblesses humaines, affinant progressivement son choix du bon candidat avant de trouver enfin ce qui serait le mieux pour gouverner son peuple. Alors c'est à l'image de ce que nous vivons nous-mêmes dans notre foi, dans notre conscience, ne progressant que pas à pas, progressivement, devant ruser avec notre fatigue, avec nos déceptions, avec nos faiblesses, mais aussi avec nos forces, nos talents, nos enthousiasmes, nos illusions, nos certitudes trop étroites, trop incrustées. Samuel, il est envoyé par l'Esprit vers Ésaïe et ses fils. Il va sanctifier Ésaïe et chacun de ses fils, puis il les passe en revue, apprenant à les connaître. 7 fils passent donc d'abord devant Samuel. Alors le chiffre 7, dans la Bible, ça évoque la réalité de ce monde qu'évoque le chiffre 6, avec un plus 1 qu'est la bénédiction de Dieu. Alors cette fratrie de 7, elle est à l'image de nous-mêmes, de notre bonne nature, riche de multiples dimensions qui sont reconnues et qui sont bénies, distinguées par Dieu. Alors 3 de ces dimensions dans ce récit sont explicitement nommées comme étant remarquables et comme donnant envie de les faire régner sur l'ensemble de notre être et de notre vie pour que notre vie soit belle, soit bonne et harmonieuse. Le nom du premier fils, c'est Eliab. Alors Eliab, en hébreu, ça veut dire « Mon Dieu est un père ». Elle, c'est Dieu, Eli, mon Dieu, Ab, comme Abba, comme papa, père. Voilà donc une excellente confession de foi, tout proche de l'évangile de Jésus-Christ, reconnaissant Dieu comme père, nous encourageant donc à nous laisser engendrer par Dieu. Alors comme Samuel, nous ne disons que cette foi, cette magnifique théologie, est bien digne de régner sur notre existence et sur, j'allais dire même, l'humanité de demain tout entière. Mais en fait, non. C'est une excellente théologie, mais ce n'est pas la théologie même la plus élevée qui doit gouverner notre vie et encore moins notre monde. Le nom du deuxième fils est Abinadab, ce qui veut dire « mon père est généreux ». Après la saine théologie évoquée par le premier fils, le deuxième fils incarne donc la générosité comme étant source de vie. Alors c'est pas faux, c'est un excellent résumé de l'éthique chrétienne, c'est bien digne effectivement de régner sur notre vie et sur notre monde, nous semble-t-il. Mais en fait non, nous dit ce récit. La théologie et l'éthique sont d'excellentes dimensions à travailler, c'est vrai, mais elles font de mauvais maîtres sur nos vies et sur nos cités, parce qu'elles tournent vite au dogmatisme et au moralisme qui crucifient les âmes, l'un comme l'autre. Alors le troisième fils, c'est Shama. C'est plus étrange, ça veut dire le vide, comme un appel à se vider de toute prétention à exister en tant qu'individu. Ce serait comme un vaccin contre Saül. Se vider de toute prétention, de tout désir. Certes, cela nous apprend à ne pas nous prendre pour Dieu, et c'est un bon point, c'est là que ça mérite d'être médité, bien sûr. Ça nous invite à prendre des temps féconds de retrait en dehors de la vie active, seul, pour se concentrer sur soi-même, sur se concentrer sur la prière à Dieu, peut-être des temps d'assaise, peut-être des temps de Shabbat où on arrête de produire pour se concentrer sur le cœur même de notre être, sur notre relation à Dieu. Alors tout ça, ce sont d'utiles exercices, mais c'est certainement pas ça qui devrait régner sur notre existence. Alors ça existe dans d'autres spiritualités, effectivement, se recentrer sur l'idée de se vider de soi-même par la méditation, se vider de son désir. Mais non, ce n'est pas ce qui nous est proposé ici comme chemin d'harmonisation de notre être. Ce sont d'utiles exercices seulement. Alors il y a quatre autres fils qui passent donc devant Samuel et dont on ne donne pas le nom ni le détail. Ces quatre autres fils sont donc laissés à notre imagination, à notre pertinence, pour nous inviter à visiter les dimensions essentielles de notre propre personnalité, de notre être, afin de reconnaître chacune de ces dimensions qui nous font vivre, qui nous font nous épanouir, à nous de les reconnaître, de les nommer, de les bénir, sans pour autant donc les laisser régner sur l'ensemble de notre être. Alors comme Samuel, nous voilà donc bien avancés, c'est alors que l'on découvre qu'il existe un huitième fils qui va être désigné par Dieu comme bien digne de régner sur l'ensemble. Le 8, dans la Bible, ça évoque effectivement la transcendance de Dieu, ça évoque l'éternité. C'est le 8e jour d'une semaine qui n'en compte que 7. C'est pour ça que nous célébrons notre Dieu le 8e jour, le lendemain du Shabbat, pour fêter la résurrection, cette vie qui déborde de la simple existence en ce monde. Alors ce 8 évoque la transcendance. Ce fils, il est mal reconnu par sa famille qui l'appelle le petit. Et il lui prête peu d'attention car il est serviteur des brebis. Tiens, il est serviteur des brebis. Ça évoque déjà cette qualité qui est le soin de l'autre, qui est le service de l'autre. Effectivement, qualité essentielle dans la Bible où Dieu est comparé à un berger, parce qu'effectivement, il se fait serviteur même des plus petits. Et donc, qu'est-ce qui donc doit régner sur notre être, sur l'ensemble de nos dimensions et sur notre devenir? Eh bien, c'est ce petit. Ce petit dernier qui s'appelle David, nous dit le texte. Et David en hébreu, ça veut dire le bien-aimé. Cela nous invite à nous savoir d'abord être le bien-aimé de Dieu, à en faire le cœur même de notre dignité, la certitude que nous valons quelque chose, en faire le fondement de chacune de nos prières de gratitude, en commençant par là. En discerner les traces dans notre vie par la louange à Dieu, oser y fonder notre liberté, liberté de croire, de penser, d'agir, d'avoir notre propre vocation, d'entreprendre. C'est ce que confesse Jésus-Christ dans son testament spirituel qu'il donne quelques heures avant d'être arrêté pour être exécuté à ses plus proches disciples. Il explique comment il s'est lui-même construit. « Comme le Père m'a aimé, dit Jésus-Christ, je vous ai aussi aimé. » Jésus s'est construit sur le fait même d'être aimé et d'être le bien-aimé de Dieu. Cela nous appelle à la gratitude envers Dieu, mais aussi à la gratitude pour toutes les fois où nous avons été dans notre vie, dès notre enfance, et puis dans les moments les plus riches, car cela nous a effectivement construit, comme le dit Jésus-Christ, comme capable à notre tour d'aimer et de servir en vérité. Quand on fait régner ainsi la grâce au-dessous de tout ce qui compte pour nous, cela change tout en réalité. Notre façon d'être, notre façon de faire de la théologie. Et Paul, dans son hymne à l'amour, nous dit qu'il n'y a pas d'autre façon en réalité de faire de la théologie normalement. Cela infuse sur notre façon d'être serviteur des autres, non pas pour faire notre salut, mais parce que nous sommes déjà sauvés et aimés, par plaisir d'aimer, de faire du bien. Ça influe sur notre façon d'agir et de nous reposer, de ne rien faire, de faire la sieste. Ça influe sur notre façon de faire de la musique, de rêver, de faire du sport, de faire ce que nous aimons. Cela nous donne d'être sans avoir besoin de nous excuser, d'exister, de respirer, de manger, de vivre, d'avancer, d'être nous-mêmes avec notre personnalité, nos goûts, notre talent. Parce que nous avons saisi que nous sommes bénis, Et là, effectivement, David va être béni, nous dit le texte, au milieu de ses frères et sœurs. Non au-dessus de ses frères, non au-dessous de ses frères, ni contre ses frères, ni sans ses frères, mais parmi ses frères et sœurs. Et donc c'est ainsi qu'il va être à la fois berger, mais aussi prophète et roi. Un roi qui respire la louange à l'Éternel. Amen.